old records never die.
Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Old Records Never Die. Les années 60 sont indéniablement marquées par le rock anglais. Londres a été pendant quelque temps le centre du monde, aussi bien en ce qui concerne la mode que la musique. Il faut dire que les groupes anglais occupaient tout le marché et qu'ils s'en créaient sans cesse avec plus ou moins de succès. L'idée m'est venue de vous parler de quelques-uns de ces groupes anglais des années 60, mais en oubliant, pour une fois, les plus connus. Donc, excite de ma liste, les Beatles, les Stones, les Who, les Kinks et autres Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Ten Years After, Cream, Yardbirds, dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises. Alors vous allez constater que ce ne sont pas que des branques qui ont vendu quelques disques. Certains ont été des tubes planétaires, mais les groupes n'ont pas toujours duré pour marquer les esprits comme ceux que je viens de citer. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Les autres groupes anglais des 60s ». Alors je n'ai retenu que des chansons publiées dans ces années et je vous les présente par ordre chronologique. D'abord, en 1964, en juin 64 précisément, sort un titre des Animals, « House of the Rising Sun ». The Animals viennent du nord-est de l'Angleterre, Newcastle upon Tyne. Ils sont employés de bureau ou travailleurs manuels. À l'origine, le groupe se nomme Alan Price Combo, du nom du claviériste, et joue du jazz. Plus tard, ils sont rejoints par le chanteur Eric Burdon, très imprégné de rhythm and blues noir américain. C'est sous son impulsion que le groupe va changer d'orientation pour devenir rhythm and blues et rock. Après un premier 45 tours, ils produisent House of the Rising Sun. C'est une vieille chanson de folk américain. À l'époque, elle a été déjà reprise par Bob Dylan, mais c'est la version des Animals qui va le plus marquer les esprits. Notamment, en partie, en raison de la partie d'orgue d'Alan Price et la voix si particulière d'Eric Burdon. Côté texte, cette chanson a deux versions. L'original parle d'une maison à la Nouvelle-Orléans nommée Rising Sun. En fait, c'est une maison close. Et c'est une des pensionnaires qui parle en regrettant son parcours qui l'a mené jusque-là. La version des Animals est un peu différente, car elle fait référence cette fois à un garçon qui a mal tourné, alcool et violence, et qui regrette aussi son parcours. Rising Sun devient une sorte de pénitencier. D'ailleurs, c'est ce que Johnny Hallyday reprendra en lui donnant le titre Le Pénitencier. Les Animals deviennent grâce à cette chanson une référence au même titre que les Stones. Ils ont contribué à une réinvention du rhythm and blues noir américain. Le groupe se perdra un peu dans les méandres de la drogue. Eric Burdon se passionnera pour le mouvement hippie et le guitariste Hilton Valentine, très perturbé par sa consommation de LSD, se prendra pour Jésus-Christ, vivant reclus dans une chambre d'hôtel pendant plusieurs années. Les Animals, à partir de la fin des années 60, ne connaîtront plus le succès, et Eric Burdon sortira de temps en temps de sa retraite pour faire des albums solo. Et on écoute tout de suite donc House of the Rising Sun.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. My mother
tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.
Dartford, banlieue est de Londres, n'a a priori rien d'exceptionnel. C'est pourtant de là que viendront Mick Jagger, Keith Richards, Phil May et Dick Taylor. Les deux premiers formeront les Stones, les deux autres The Pretty Things. Ce sont presque des clones, tant ils pratiquent la même musique, toutefois plus agressive chez les Pretty Things, dont les concerts sont jugés sauvages. Rendez-vous compte, à l'époque, ils ont les cheveux longs, ils arborent un look crasseux négligé et leurs textes ne sont pas loin de faire scandale. Ils jouent pour leur plaisir et seulement pour leur plaisir. Refusent une invitation au Ed Sullivan Show au seul motif que ça les emmerde d'aller aux États-Unis. Le mot « concession » ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ils refusent de céder aux exigences de leur label. Ce sont des puristes du rhythm and blues de l'époque, comme pouvait l'être aussi Brian Jones. Ils s'inspireront beaucoup de Bo Diddley et composeront la plupart de leurs titres. Ensuite, ils évolueront vers une forme de rock psychédélique. Mais revenons en octobre 64 avec la sortie de leur deuxième 45 tours. La face A, c'est « Don't Bring Me Down », une chanson qui raconte l'histoire d'un type qui rencontre une fille avec laquelle il va avoir une relation sexuelle. C'est assez clairement dit dans les paroles et ça ne manque pas de choquer l'Angleterre puritaine et bien-pensante. C'est pourtant d'une banalité confondante à cette époque. Les Pretty Things vont avoir une influence importante plus tard sur des groupes comme les Stooges, impressionnés par la sauvagerie des Pretty Things, mais aussi David Bowie ou même Keith Moon, le batteur des Who, fan absolu de Skip Allen, le batteur déjanté des Pretty Things, qui détruisait sa batterie et balançait les cymbales. Des changements de personnel vont entraîner une désaffection du public, et bien que le groupe ait continué, il n'a plus eu ce charme qui venait de son ingéniosité et de sa liberté. On va écouter Don't Bring Me Down, et je vous demande de ne pas oublier qu'on est en 1964, quand les Beatles publiaient She Loves You ou I Want to Hold Your Hand. Les Pretty Things étaient à des années-lumière de ce type de rock. L'agressivité, la dureté et l'innovation étaient chez eux. Don't bring me down.
I'm on my own, just wanna roam. I tell you man, don't want a home. I want around, be off the ground. I need to go from town to town. I say I think this life is grand. Say I dig it, man. Don't bring me down, man. Don't bring me down. I met this shit the other day.
day. And then to me, she says she'll stay. I got this plan, just like a cave. And we had a little rain. And then I can eat her on the ground. My head is spinning round. Don't bring me down. Don't bring me down. Someone new, and then to him I won't betray. I had a purse and pearls of fame. I even buy a wedding ring. But until then, I says I am. I see I dig it, man. Don't bring me down. Don't bring me down. But until then.
Les Troggs viennent du sud-ouest de l'Angleterre, une ville nommée Andover. Eux aussi sont issus de milieux ouvriers, maçons, menuisiers. Ils n'auront de cesse de revendiquer leurs origines ouvrières et joueront un rock qu'ils veulent sans fioriture, cru et énergique. Des espèces de précurseurs de ce que seront plus tard le hard rock et le punk. Ils se feront remarquer par des interprétations très personnelles de reprises de standards. You Really Got Me des Kinks, Louie Louie et bien évidemment Wild Things. Troggs, c'est l'abréviation de troglodyte, et ils ont tendance à maltraiter leurs instruments pour leur donner un son brut, voire brutal. La communication du groupe sera aussi axée sur cet aspect. Ils apparaissent vêtus de peau de bête dans une caverne ou mangeant de la viande crue enfermée dans une cage. Il n'en faut pas plus pour leur coller une image de parfait crétin. L'aventure, parce que c'en était une, ne durera pas très longtemps. La mode anglaise est à l'époque aux groupes qui travaillent leur son en studio à l'image des Beatles et pas à ces brutes qui refusent toute concession. Fermement opposés à la consommation de drogue, ils iront jusqu'à boycotter certaines salles suspectées de servir de marché aux trafiquants. C'est un geste politique important et engagé qui va, au lieu de les servir, aider à les marginaliser. Alors voilà un bel exemple de groupe qui avait un réel potentiel qu'il n'a pas su ou pas voulu exploiter. Il y avait une place pour des formations comme les Troggs, des gens qui se concentraient sur les origines du rock, de la rusticité et la brutalité qui lui sont inhérentes. Le titre que j'ai choisi, Wild Thing, sera leur plus grand succès, objet par la suite de nombreuses reprises, dont celle de Jimi Hendrix. La version de Troggs est surprenante, à la fois rugueuse et pleine de douceur, avec le petit solo d'ocarina. On l'écoute.
Wow.
Les Small Faces viennent de Londres. Le groupe est articulé autour de Steve Marriott à la guitare et Ronnie Lane à la basse, tout au moins au début. Il ne durera en effet sous cette forme que pendant 4 ans, avant d'intégrer de nouveaux musiciens et de changer de nom pour devenir les Faces avec Rod Stewart au chant. Le nom est plein d'autodérision puisque les 4 musiciens étaient assez petits, d'où le small. Et Faces peut signifier branleur en argot anglais. Les Small Faces sont donc des petits branleurs. Comme tous les groupes anglais de cette époque, ils ont des bases de rhythm and blues qu'ils vont mélanger avec un peu de pop et même parfois avec des accents psychédéliques. C'est un mélange assez hétéroclite, bien porté par la voix rauque à l'accent cockney de Steve Marriott qui chante en plus de jouer de la guitare. All or Nothing est un des titres les plus connus, écrit par Steve Marriott, soit pour son ex-petit ami, soit pour sa première épouse. Ça n'a jamais été très clair. On est en pleine époque Swinging London et ça s'entend. Les accents rock sont présents, patinés par un son pop très travaillé. Steve Marriott partira des Small Faces pour fonder Humble Pie, qui aura un son beaucoup plus rock qui lui convenait beaucoup mieux. Par la suite, Steve Marriott souffrira d'une grande dépendance aux drogues et à l'alcool. Il décédera en 1991 dans l'incendie de sa maison, et lors de ses funérailles, cette chanson sera jouée en guise de requiem. À noter aussi que Little Bob en a fait une excellente reprise que je vous conseille aussi d'écouter. Allez, les Small Faces, All or Nothing. Alors, je vous ai parlé du Swinging London et les deux titres que je vous propose maintenant en sont une parfaite interprétation. Le Spencer Davis Group est créé autour de Spencer Davis et de Steve Winwood. Les musiciens lui ont donné ce nom parce que Spencer Davis était le seul à accepter de répondre aux interviews des journalistes. Et ils ont pensé que ce serait plus simple s'ils adoptaient ce nom. Mais Spencer Davis n'était pas le leader, c'était un membre de la formation au même titre que les autres. La carrière du Spencer Davis ne sera pas très longue, car assez vite, Steve Winwood en partira pour former Traffic et ensuite il ira rejoindre Blindface. Son jeu d'orgue a beaucoup amené à la tonalité générale du Spencer Davis qui aura quelques tubes à son actif, Gimme Some Lovin' ou I'm a Man. Le Spencer Davis Group vient de Birmingham. Alors vous aurez noté que les groupes anglais de l'époque ne sont pas tous londoniens. Ils sont originaires d'à peu près toute l'Angleterre. Ça montre bien à quel point ce phénomène était répandu. Les Anglais avaient sans doute envie d'entendre autre chose que du skiffle et l'éruption du rock américain et la découverte du blues a été à l'origine de ce mouvement très particulier au rock anglais. Ils ont tout assimilé en même temps et ont bénéficié des progrès technologiques pour faire évoluer la musique. Dans le titre « Gimme Some Lovin'» qu'on va écouter, le son de l'orgue Hammond utilisé par Steve Winwood est une composante essentielle de la chanson. Pas forcément en harmonie avec la façon de chanter et le rythme presque funk du titre. Ce « Gimme Some Lovin'» reste encore aujourd'hui un exemple de l'inventivité des Anglais des 60s. La chanson suivante symbolise un aspect caractéristique des Anglais. Ils ont toujours su promouvoir des choses très pop, en ont fait des succès et les ont laissés tomber aussi vite. Herman's Hermit est un exemple de ces groupes qui n'ont pas duré longtemps malgré un succès énorme en 1966. Ce sont des gens qui sont originaires de Manchester et dont l'histoire du rock n'a pas retenu les noms. Ce groupe ne doit son existence qu'à son producteur, qui a vu en eux un faire-valoir de la variété familiale. il en fait un groupe consensuel, pas rebelle pour un sou, propre, bien coiffé, bien habillé. Ce sont des gendres idéaux. Herman Sermitte aura un titre au succès mondial, No Milk Today. Ce n'est pas du rock, pas du rhythm and blues, pas du blues, c'est de la pop anglaise. En France, on dirait variété française. On n'a pas hésité lors du mixage à ajouter des violons, une cloche, des chœurs en soutien d'une voix bien calibrée et sans aucune agressivité. C'est de la soupe, mais elle est bonne. Il n'y a rien d'original dans ce titre, mais qu'est-ce que c'est bien fait ! C'est entraînant, joyeux, romantique. Bref, on a tous les ingrédients d'une recette dont on peut penser que ça marchera, et ça a été le cas. Des musiciens à l'aspect juvénile, habillés de costumes, chemises blanches avec cravate sous un pull col en V. C'est une musique conçue pour danser et faire la fête bien sage. Les Anglais sont passés maîtres dans cet exercice et ils le sont restés longtemps. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Herman Sermitte, alors je vous propose d'écouter No Milk Today, dont la durée était aussi calibrée pour un matraquage radio.
Symbol of the dawn. No milk today. It seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today. It wasn't always so. The company was gay. We turn out today. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day.
À Manchester, un groupe va faire parler de lui pendant seulement 3 ans. Il se nomme The Hollies. Et il est présenté comme étant les rivaux mancuniens des Beatles. On les compare également aux Birds, groupe américain. Les Hollies ont plusieurs particularités. C'est plus un groupe folk que rock. Ils travaillent les harmonies vocales à merveille. Parmi eux, il y a un certain Graham Nash, qui s'illustrera ensuite avec David Crosby, Stephen Stills et Neil Young au sein de Crosby, Stills, Nash & Young. Mais surtout, les Hollies ne composent pas leurs chansons. Ils en confient l'écriture à d'autres, ce qui est en décalage total avec ce que font les Beatles, les Stones, les Kinks, qui eux composent. Leurs titres ont l'avantage d'être parfaitement interprétés, mais d'être un peu sans relief à l'image du groupe qui passe inaperçu car il ne joue sur aucun des codes de la mode de l'époque. Il fallait se faire remarquer en Angleterre pour être écouté, soit par l'agressivité de sa musique, soit par son comportement, soit par son nom ou son jeu de scène. En tout cas, il fallait être identifiable. La normalité des Hollies les a empêchés d'atteindre ce statut. Ils ont été, pour ainsi dire, mal aimés. Ils ont tenu 3 ans avant que Graham Nash ne parte en Californie, attiré par le psychédélisme californien et le mouvement hippie. Nul doute que son passage chez les Hollies l'a aidé. Il est devenu un des meilleurs représentants du folk rock contestataire des États-Unis dans les années 70. Alors j'ai choisi de diffuser une chanson des Hollies, car à mon sens, il représente un des multiples aspects de la scène anglaise des années 60. Pas celui qui a défrayé la chronique, pas celui qui a eu le plus de succès, pas celui avec la plus forte personnalité, mais un groupe honnête et professionnel. Et le titre que j'ai retenu s'appelle « Pay Your Back With Interest ».
So much to do, but when my traveling is over, I'll be back with interest. I'll be back with interest. It seems unfair to leave you and sell myself the way I do, but when my wandering is over.
Un an plus tard, un titre connaîtra aussi un succès étonnant. Nous sommes en novembre 1967, quand est publié Night in White Satin des Moody Blues. Ils ont commencé leur carrière en jouant comme tout le monde du rhythm and blues. Puis, à partir de 1967, ils vont intégrer 2 nouveaux instruments dans leur formation. Alors d'abord le mellotron. Un instrument qui aujourd'hui fait figure de vieillerie, je ne sais même pas s'il en existe encore. C'était un monstre de plusieurs centaines de kilos, de plus de 2 mètres de hauteur, et c'est juste l'ancêtre des synthétiseurs de maintenant. Pour faire simple, le mellotron, ce sont des bandes magnétiques de 7 à 8 secondes qui sont actionnées depuis un clavier. Sur ces bandes sont enregistrées toute une série de sons. En l'occurrence, les Moody Blues choisiront des sons d'instruments d'orchestre symphonique. Enfin, pour être plus exact, c'est le distributeur qui les engage pour enregistrer un disque échantillon de ce mellotron, et ce sera une version de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Après cette première expérience, l'idée de continuer en ce sens fera son chemin et un album paraît en 1967 sous le titre « Days of Future Past », un concept album qui relate les différents moments d'une journée. L'autre instrument qui fait son apparition est la flûte traversière. On parlera alors d'un rock symphonique. De là à dire qu'on est sur les prémices du rock progressif, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut toutefois pas franchir allègrement. Il n'empêche que la flûte traversière sera utilisée par Jethro Tull et Genesis, et Keith Emerson abusera du mélotron. C'est dans cet album que figure Night in White Satin, qui sera un tube énorme. C'est une musique tournée vers la rêverie, avec ses nappes de mélotron, ses solos de flûte, des textes à l'ambition poétique, des chœurs un peu partout et une ambiance symphonique. Le morceau démarre sur un rythme lent qui ne laisse pas envisager ce qu'il y aura ensuite. Tout se met en place doucement et prend de plus en plus d'ampleur. On est très loin de ce que font les autres groupes orientés rock ou rhythm and blues. Ce titre introduit une évolution vers un nouveau genre musical. Il sera ensuite repris à de nombreuses fois et je vous conseille d'écouter la reprise d'Alain Bashung dans l'album Osez Joséphine, sans doute la plus originale, car très épurée.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I love you.
Just what the truth is, I can't say it.
Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de Steve Winwood et du Spencer Davis Group. Steve Winwood en est parti pour rejoindre Traffic, un groupe inqualifiable, jouant aussi bien du rock, du jazz que du prog-rock. Traffic, c'est la réunion de quatre musiciens, tous multi-instrumentistes et ouverts à tous les genres musicaux. Outre Steve Winwood, on trouve Chris Wood, Jim Capaldi et Dave Mason. On y trouvera une flûte, un saxophone, un sitar et un mélotron, en plus des instruments habituels du rock. C'est un groupe inqualifiable, car il n'a cessé d'évoluer au cours de sa courte existence. Les fortes personnalités des uns et des autres les ont conduits vers des chemins différents à chaque album. Parfois même, une chanson peut avoir diverses intonations. Les changements de rythme, les coupures sont fréquentes, et les musiciens prennent le temps de s'exprimer dans des morceaux un peu plus longs que la moyenne. L'homogénéité du groupe est importante, au point que les gars se sont retirés dans un cottage de la campagne anglaise pour enregistrer leur premier album, et tout s'est bien passé, malgré cette vie en communauté pendant quelques semaines. Malheureusement, Traffic ne connaîtra pas un succès important en raison de ces changements perpétuels qui finissent par déstabiliser leurs fans et aussi parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans l'air du temps. Dès 69, le groupe n'existe officiellement plus car tous les musiciens sont partis vers d'autres expériences. Il n'y a pas de désaccord entre eux, simplement le désir d'aller voir ailleurs pour faire autre chose. Ils se retrouveront de temps en temps et reformeront Traffic le temps de quelques albums. A noter que, également que Steve Winwood fera ensuite une carrière solo en tant que guitariste, mais il sait jouer de tout ce type-là. Son amitié avec Jim Capaldi, Ginger Baker et Eric Clapton l'amènera à participer à de très nombreux projets. Alors j'en ai choisi un extrait du premier album de 1967, il se nomme « Dear Mr. Fantasy ». Traffic fait partie de ces groupes reconnus pour ses qualités, mais pas forcément suivis du public. C'est dommage, parce qu'il y avait un vrai potentiel que les gars n'ont forcément pas cherché à exploiter commercialement. On écoute donc « Dear Mr. Fantasy ».
Take us out of this gloom.
Or, puisqu'il me reste un petit peu de temps, je ne vais pas vous parler très longtemps de ce groupe nommé Procol Harum, car malgré de bons musiciens, Gary Brooker et Robin Trower, ce groupe s'est laissé enfermer dans un style qui était censé plaire. Il faut dire qu'un de leurs premiers titres a été un succès qui les a complètement dépassés. A Whiter Shade of Pale ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais ça a cartonné incroyablement. J'en parle car c'est un autre aspect du rock anglais des années 60. Les labels avaient un pouvoir énorme et imposaient un peu ce qu'ils voulaient à leurs artistes. S'ils ne savaient pas résister, ils se faisaient bouffer par le label. Robin Trower finira par partir parce qu'il en avait marre que ses compositions soient systématiquement refusées car elles n'étaient pas dans l'état d'esprit du groupe voulu par Gary Brooker. À l'époque, on a qualifié ce style de rock viennois, ce qui est loin d'être un compliment. Techniquement, c'est très bien fait, il n'y a rien à dire sur ce point, mais c'est assez vite lassant. Toutefois, si vous avez quelques décennies à votre compteur temps, vous avez obligatoirement dansé un slow sur ce titre qui a fait les beaux jours de toutes les booms des années 60 et plus.
Thank you.
Voilà, j'aurais pu citer pas mal d'autres groupes anglais de ces années de grande création, car on en comptait plusieurs centaines dans cette Angleterre bouillonnante des 60s. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée. À très bientôt, au revoir.